Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 12. Comme il achevait, on frappa à la petite porte du couloir. Il se leva avec un geste d'impatience, alla ouvrir et recula en apercevant dans l'embrasure la face rougeaude et rasée de M. Landaré, huissier près le tribunal de Saint-Clémentin.
« Faites excuse, M. Moga,
bredouilla l'officier ministériel.
« Faites excuse si je vous dérange. » « Je viens pour un petit mandat de comparution dans l'affaire Berloquin, et j'ai préféré vous remettre la copie en main propre, comme c'est mon devoir d'abord, et puis par discrétion, afin de ne pas laisser traîner cela dans vos bureaux. »
Il tira de sa poche un papier plié en quatre et le tendit au banquier qui le parcourut rapidement, tandis que l'huissier, prenant des airs distraits, regardait vaguement en l'air avec la mine détachée d'un homme qui ignore de quoi il s'agit.
« C'est bien, »
grogna M. Moga de son ton le plus hautain.
« Merci, vous pouvez vous retirer. »
L'huissier salua, disparut, et la porte se referma doucement. Alors Moga se retourna vers son fils et, lui jetant le papier dans les mains,
« Je ne t'ai pas tout dit, » répéta-t-il d'une voix brève. « Lis cela. »
Étienne lut à son tour l'exploit par lequel Simon Moga, banquier, était mandé à comparaître devant le juge d'instruction de Saint-Clémentin, comme prévenu du délit d'habitude d'usure commis de complicité avec le sieur Jean Berloquin, délit prévu par les articles 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 et 2 de la loi du 27 décembre 1850. Le jeune homme garda longtemps le papier dans ses doigts tremblants. Les lignes dansaient devant ses yeux. Le rouge lui montait au front. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. La catastrophe tant redoutée était imminente. Le chef de la maison Moga allait être traîné comme un misérable sur les bancs de la police correctionnelle. Il posa le mandat de comparution sur le bureau et leva sur son père un regard douloureux. « Est-ce vrai, ce qu'on dit là-dedans ? » murmura-t-il. Monsieur Moga secoua les épaules.
« Cet imbécile de Berloquin a fait des sottises et m'a compromis. Voilà la vérité, » répondit-il. « Il se peut que nous ayons eu tort, au point de vue strictement légal. Mais on sait bien qu'en matière commerciale, le taux de l'intérêt ne peut être sérieusement celui que la loi a fixé. »
Ce serait inepte.
Judiciairement, j'aurais gain de cause. Mais je ne m'en tirerai pas sans quelques éclaboussures, et il est préférable que l'affaire soit étouffée. Tu comprends maintenant pourquoi il faut agir vite ?
Sourdeval est l'oncle de Mademoiselle Boisséguin, et si tu épouses la petite, il est clair qu'il ne condamnera pas le beau-père de sa nièce. Dans ces prétendus délits d'usure, tout est laissé à l'appréciation du tribunal. On fera entendre raison au juge d'instruction, on enterrera l'affaire, et je sortirai de là blanc comme neige. Mais pour cela, il faut que, dès ce soir, nous demandions la main de Christine de Boisséguin par l'entremise du curé de Saint-Nicolas. Tout dépend de toi. Tu peux me sauver ou me perdre. » Sa voix tremblait légèrement et son regard cherchait celui d'Étienne. Mais le jeune homme avait détourné la tête. À travers les vitres poudreuses, il contemplait le jardin dont le vent agitait les arbres. Dans l'air brumeux, les feuilles jaunissantes s'éparpillaient comme un vol de papillons, et bien loin, au-delà de la fenêtre maussade, au-delà du jardin effeuillé par l'automne, Étienne voyait comme un mirage les champs de la Joubardière et la loyale figure de Thérèse. Tu ne réponds rien, reprit le banquier. Ce que vous demandez est impossible.
Impossible ?
Répéta mon gars avec emportement. Après ce que tu sais, après ce que je viens de te dire,
surtout après ce que vous venez de me dire.
Alors, s'exclama-t-il exaspéré, tu préfères me perdre, n'est-ce pas ?
Je puis être condamné à de la prison. Et si tu n'épouses pas sa nièce, Sourdeval ne me ménagera pas.
Cela ne te fait rien à toi de voir ton père ruiné, déshonoré, mis sous les verrous.
Comprenez-moi bien, mon père. Je suis prêt à faire pour vous tout ce qu'on peut tenter honnêtement et au grand jour. Ma fortune et mon travail sont à vous. Disposez-en. Annoncez dès aujourd'hui la vente de vos biens et abandonnez-en le prix à vos créanciers. Cette façon d'agir préviendra les juges en votre faveur et donnera plus de force à votre défense.
Tu veux que je me mette sur la paille ?
Mieux vaut vous dépouiller spontanément que d'y être réduit par une condamnation judiciaire.
Mais je n'entends ni être dépouillé, ni être condamné.
Rien de tout cela n'arrivera si tu consens au mariage que je te propose.
Jamais.
Il y a dans votre proposition quelque chose de louche et de honteux qui répugne à mon cœur et à ma conscience. Je n'admets pas ce moyen de leurrer la justice en frustrant les victimes de vos spéculations. Je ne suis pas l'homme de ces marchés-là.
N'en parlons plus.
« Je ne sais pas quel homme tu es, » répliqua le banquier d'une voix sourde et rageuse.
« Mais à coup sûr, tu n'es pas mon fils. »
Il se mit à arpenter violemment son cabinet.
« Un garçon pour lequel j'ai tout fait !» s'écria-t-il.
« Car enfin, il faut que tu le saches bien. Si je me suis acharné au travail, si j'ai été dur envers moi et envers les autres, si je me suis livré à ces opérations qu'on me reproche, et qui me jette aujourd'hui dans l'embarras, c'était pour toi. Je désirais te voir un jour, remuant l'or à la pelle et satisfaisant tes caprices sans compter. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu avoir d'autres enfants. J'en suis joliment récompensé. Si je t'avais donné des frères, j'en aurais trouvé au moins un qui m'aurait compris et se serait dévoué à mes intérêts. Tandis que toi, tu n'es qu'un mauvais fils. Tu n'as jamais su que me contrarier. Et aujourd'hui, que je suis dans la peine, tu m'abandonnes comme un ingrat. Entends-tu ?
Je songe si peu à vous abandonner que je vous offre ce que je possède. Liquidez tout. Quittez Saint-Clémentin et venez avec moi. Je travaillerai de façon que vous n'ayez pas à souffrir de la pauvreté, même après avoir cédé tous vos biens.
« Mais c'est justement ce que je ne veux pas, mille tonnerres !»«
Tu ne comprends donc pas que ces terres, ces maisons, ces valeurs que j'ai amassées à la sueur de mon front, c'est la chair de ma chair, c'est le plus pur de mon sang,
c'est mon existence à moi !»«
Il me faut de l'argent et du pouvoir. J'ai trimé toute ma vie pour être riche et tu me proposes niaisement de jeter ma fortune par les fenêtres ?» J'ai vu tout le pays à mes pieds, et tu veux que j'aille comme un mendiant manger le pain des autres ?
Mais c'est une dérision !
Saigne-moi aux quatre veines tout de suite, et tue-moi, cela vaudra mieux !
Non, non, je ne lâcherai ni un sou, ni un morceau de terre. Je tiendrai tête à mes ennemis, et on verra que Simon Moga a encore bec et ongles.
Il se démenait furieusement par la chambre. Sa figure était devenue pourpre. Les veines de son front se gonflaient. Ses yeux injectés de sang, ses lèvres balafrées et frémissantes donnaient à sa physionomie une expression sauvage. Étienne, pâle et violemment secoué par cette scène pénible, se tenait debout contre le bureau et demeurait silencieux. Le banquier, après avoir exhalé toute sa fureur, s'était arrêté, épuisé et hors d'haleine. Il reprit peu à peu son sang-froid et revint précipitamment vers son fils.
« Voyons, » continua-t-il d'un ton moins hautain, « tu dois pourtant comprendre cela, toi. Tu es un garçon intelligent. Sois raisonnable. Je t'ai adressé tout à l'heure des paroles un peu dures. J'ai eu tort. Oublie-les. Je t'ai accusé d'être égoïste. Je n'en pensais pas un mot.
Je sais, au contraire, que tu as bon cœur et que tu es généreux.
Montre-le.
Sois mon sauveur.
Après tout, qu'est-ce que je te demande? D'épouser une fille qui est jeune, jolie et de bonne famille.
Ce n'est pas la mer à boire, cela.
Et ça ne peut ni entraver ton avenir, ni gêner ton indépendance.
Les mariages d'affaires sont comme les mariages politiques, une pure formalité.
Tu seras libre après de suivre ton caprice, si le cœur t'en dit.
Songe que c'est l'honneur de ton père et le tien qui est en jeu.
Cela vaut bien un léger sacrifice.
Fais-le pour moi,
je t'en prie.
Il lui avait pris les mains et lui parlait d'une voix presque caressante.
« Sois un bon enfant, je t'en supplie, au nom de ce qu'il y a de plus sacré, au nom de ta mère.
Veux-tu que je te le demande à genoux ?»
La voix du banquier s'élevait avec un accent lamentable. Elle réveillait dans les plis des rideaux fripés, dans les gerçures des cloisons, dans la poussière des cartons bourrés de paperasse, comme un écho de supplication qu'Étienne avait autrefois à la même place adressé à son père et qui était resté inentendu.
Sauve-moi de la prison, sauve-moi de la ruine,
continuait M. Mauga en s'accrochant à son fils.
Voyons, tu n'as pas une pierre à la place du cœur. Si tu m'adressais une prière pareille, je t'écouterais, moi, je ne serais pas inflexible.
« Je vous ai fait un jour, ici même, répondit Étienne, une prière que vous n'avez pas écoutée.
Je m'en souviens.
Et pourtant, si vous me demandiez aujourd'hui un sacrifice, je serais prêt à l'exécuter. Vous exigez de moi un acte déloyal, et malgré mon désir de vous sauver, malgré tout ce que je souffre, je me vois forcé de vous dire non. »
Le banquier releva la tête et regarda son fils en face. Il lut sans doute sur la figure d'Étienne une résolution inébranlable, car il lui lâcha brusquement les mains et se rejeta en arrière.
« Ah ! » murmura-t-il, « tu es plus dur que je l'ai jamais été.
Va-t'en, je regrette de t'avoir appelé. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais qu'une entrave dans ma vie. Retourne là d'où tu viens. »
« Non, répliqua le jeune homme d'une voix ferme. Non, quoi que vous puissiez penser de moi, je ne vous quitterai pas dans un pareil moment. Je resterai ici. Je serai près de vous devant les juges, et vous me retrouverez près de vous, après le jugement, pour vous aider à tenir tête à la mauvaise fortune.
Je n'ai pas besoin de ton aide. « Et je tiendrai tête moi-même, aux hommes et au diable !»
s'écria le banquier exaspéré.
« Je vous montrerai à tous ce que je vaux et de quelle trempe je suis. Va-t'en, ta vue m'irrite, et je ne veux pas avoir sous les yeux un niais qui n'est bon à rien. Va-t'en, ou je te... »
Il le poussait devant lui, les poings serrés, les yeux allumés, tandis qu'Étienne, navré et interdit, le regardait avec une expression de douloureuse pitié. À la fin, M. Mauga ouvrit la porte du vestibule et mit son fils dehors en lançant une dernière imprécation. Puis, une fois seul, il revint vers son bureau et s'affaissa dans son fauteuil en jetant un cri de rage qui ressemblait à un rugissement. C'était fini. Il venait de sentir la dernière branche se briser dans ses mains. Il ne pouvait plus maintenant compter que sur ses propres forces pour remonter le courant dont il entendait déjà les flots tourbillonnants lui bourdonner aux oreilles. Lui, qui avait assisté d'un œil sec à tant de naufrages et à de si lamentables débâcles, lui, qui avait désespéré tant de gens, il éprouvait à son tour ce que c'est que de perdre sa dernière espérance. Dans ce sinistre et sombre cabinet, entre ces quatre murs délabrés, il se sentait tout à coup misérable et abandonné comme un mendiant qui, le soir venu, voit les dernières maisons du village se fermer une à une à son approche, et qui se trouve à la nuit face à face avec la solitude de la plaine nue, ténébreuse, inhospitalière.